L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Le LEM se transporte à Crozon, à Saint-Ernaut, soyons précis, dans les locaux de la Maison des Minéraux. La Maison des Minéraux accueille tout un tas de choses, le musée que l'on ne présente plus, le jardin insolite aussi, mais ce qui nous intéresse est peut-être un peu moins visible, c'est le Fab Lab de la Maison des Minéraux, nommé Fab Lab Silex et compagnie. Pour en parler, nous sommes avec Pierre-Yves Cavella et Pierre Dehénin. Pierre-Yves, tu es en charge de l'animation du Fab Lab et Pierre, tu es médiateur scientifique à la Maison des Minéraux. Ça fait beaucoup de Pierre autour de la table, à la Maison des Minéraux. C'est beau, non ?
Bonjour Pierre-Yves.
Alors, pour en parler, on va essayer de découvrir ce qu'est un Fab Lab. Alors, peut-être justement, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter ce qu'est un Fab Lab ?
Eh ben, en deux mots, un Fab Lab, ça vient de Fabrication Laboratory. C'est la contraction de ces deux mots-là. En fait, tout simplement, c'est un endroit où on imagine, on conçoit et on fabrique. Donc, c'est un endroit où il y a des machines qui sont accessibles. Alors, assez typiquement, dans les Fab Labs, comme chez nous par ailleurs, on va trouver des imprimantes 3D, mais aussi des découpeuses graveuses laser. Donc, on est équipé d'une de ces machines depuis un an. Donc, on va trouver ce genre d'outils que l'on appelle des outils numériques de fabrication. Mais on va aussi trouver, et c'est le cas chez nous, un atelier de menuiserie avec des outils un peu plus conventionnels, scie, marteau, perceuse. Voilà, donc il y a tout cet ensemble d'outils qui sont accessibles dans un Fab Lab.
Alors, ça peut être l'occasion aussi de rappeler que c'est quelque chose qui est connecté même avec ce concept de low-tech. Alors justement, les low-tech, c'est quoi ?
Alors, les low-tech, c'est quoi ? C'est de la tech sans numérique. Donc, effectivement, quand on évoque...
De la tech sans numérique.
Alors, c'est de l'anglais, déjà, low technology, c'est-à-dire une technologie sans gros moyens, avec des moyens simples. Et ça, on aime ça.
Voilà, effectivement. Donc, on évoquait le fait qu'il y a un atelier de menuiserie. Là, effectivement, on va plutôt utiliser des outils les plus simples qui soient. Ça peut être une scie à main, qui n'est pas forcément électrique. Donc, voilà, effectivement, il y a cet aspect de low tech aussi qui peut rentrer en ligne de compte dans un Fab Lab. Ça n'est pas forcément que de l'outillage numérique.
Une imprimante 3D, c'est low-tech ?
Non.
Non.
Pas à mon sens.
Pas complètement.
Mais dans l'esprit Fab Lab, juste pour compléter, il y a une ouverture au territoire, à différentes personnes, dans l'idée de gagner en autonomie sur le fait de réparer, de fabriquer, de créer, de concevoir ses propres objets, plutôt que de dépendre de grandes filières industrielles, avec des objets de moins en moins réparables notamment. Donc il y a beaucoup d'enjeux, en fait, de société également, qui font partie de l'esprit initial du Fab Lab, décliné de manière différente dans tous les territoires, le nôtre étant spécifique, ayant une partie scientifique adossée au Fab Lab.
Oui, on va y revenir. Là, dans le côté low-tech, on a parlé pas mal de l'aspect technique, mais est-ce que dans le côté low-tech aussi, il y a cette notion que chacun puisse s'approprier aussi ces technologies ?
Bah, le fait est que depuis un an sont animés par des bénévoles du centre social de l'île Amir des ateliers de bricolage et donc des ateliers menuiserie notamment.
Donc on est en plein dedans.
Et voilà. Et donc là on est sur des outils que l'on peut trouver, avoir à la maison, des outils pour couper, pour visser, pour tracer, etc. Et là l'objet de ces ateliers est de réaliser en 3 heures un objet. Alors souvent ce sont des nichoirs à oiseaux. Et c'est assez formidable, parce qu'il y a des gens qui passent la porte en disant « Bah écoutez, moi je connais rien en bricolage, je suis même assez nul et assez gauche. » Et au bout de 3 heures, ces gens-là repartent avec un objet qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage par le faire très concret. Au bout de 3 heures, on repart avec un objet qu'on a fabriqué soi-même.
Et avec de la transmission de compétences, dans ce cadre-là, il y a quelqu'un qui encadre les ateliers, qui transmet des choses qu'il sait faire mieux que quelqu'un qui ne les a jamais faites. Et donc il y a cette idée de transmission aussi dans le Fab Lab. Alors, sur les modalités concrètes, comment faire pour avoir des référents dans chaque domaine, c'est pas toujours possible, mais l'idée est aussi de transmettre et de partager les savoir-faire, les compétences, pour collectivement gagner en autonomie. Je reviens là-dessus parce que ça compte.
On est en plein dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, n'est-ce pas ?
Exactement.
Alors, tu l'as un petit peu évoqué, Pierre-Yves, c'est les machines qui sont disponibles au Fab Lab Silex et compagnie. On fait un peu le tour de ce qu'il est possible de faire au Fab Lab. Et avec quels outils?
Eh ben, écoute, partons de la salle où nous sommes actuellement, là, qui a deux imprimantes 3D dans un des coins, ainsi qu'une une découpeuse vinyle. Donc, il est possible de découper du vinyle si on a de la signalétique à faire. Il y a des associations qui viennent ici, notamment pour faire des banderoles en vinyle. Voilà. Donc, on a dans cette pièce-là ces deux outils-là. On a aussi une petite boîte à lumière. Donc, souvent dans les Fab Labs, une fois qu'on a fabriqué un objet, quand on veut le documenter, par exemple, rendre visible en ligne la manière de le fabriquer, on va prendre des photos et on va utiliser ces petites boîtes-là à lumière qui permettent de prendre les objets en photo dans de bonnes conditions. Quoi. Et puis, cette salle-là, qui est quand même assez grande. Alors, c'est un peu la salle propre qui sert aux animations de la Maison des Minéraux, qui sert aux ateliers dès qu'on est un petit peu sur les ordis, ateliers logiciels, 2D, 3D, etc. C'est plutôt dans cette salle-là qu'on le fait. Donc, c'est, mettons, la première salle là, où nous sommes pour commencer la visite, mettons.
Et il y a un espace aussi que j'ai vu ce matin, c'est l'espace électronique.
Ah, c'est un de mes préférés, c'était une de mes premières passions. On a cet espace-là, effectivement, on a eu la chance d'avoir un don exceptionnel d'un monsieur, voilà, l'année dernière. Et le laboratoire d'électronique est désormais accessible et fonctionnel. Donc il y a sur un pan de mur, là, les casiers avec les nombreux petits composants tous classés, et un plan de travail accueillant le fer à souder, les outils de mesure. Donc ça peut être un endroit de réparation, ça peut être un endroit de fabrication, mais en tout cas cet espace-là est effectivement disponible désormais dans le Fab Lab.
Alors maintenant qu'on a parlé du côté un peu geek des choses, de toutes les machines, peut-être maintenant il faudrait peut-être qu'on comprenne, mais pourquoi un Fab Lab adossé à la Maison des Minéraux, un musée. Et là, Pierre, mais oui, pourquoi?
Mais oui, en fait, c'est surprenant au départ, et ça nous a surpris au départ, cette idée farfelue. Et finalement, c'est vraiment un outil assez unique. Quand on parle d'un musée et de médiation scientifique, on parle de transmettre des choses à des gens avec différentes manières d'aborder des questions complexes. Le fait de pouvoir fabriquer sur place des objets, c'est-à-dire de partir d'une idée, comment faire pour transmettre, comment faire pour aborder une image d'une chaîne de montagne en train de se fabriquer. Il faudrait faire une maquette. Comment on fait une maquette dans des bureaux? Et bien, c'est compliqué, sauf si on a un Fab Lab.
Alors, parce que là, ça devient beaucoup plus simple. Faut-il rappeler que le musée de la Maison des Minéraux est un musée dédié aux sciences de la Terre? C'est pour ça que tu parles de montagne.
Oui, bien sûr, on pourrait parler de montagne dans tous les sujets d'ailleurs, ça aurait sa place partout. Ayant un Fab Lab, il y a une connexion directe entre une idée qui émane d'un problème de médiation, comment s'adresser à des gens avec une question scientifique, au passage, matériellement, comment faire pour le réaliser? Et là, on a notre référent, Pierre-Yves, avec qui on peut faire des échanges et voir la manière de procéder.
Alors concrètement, ça peut se traduire par quoi? C'est des apports à ce qu'il y a de présent dans le musée?
Très concrètement, et c'est un début dès le début, c'est d'augmenter l'expérience du visiteur en installant des maquettes interactives, disons, dans l'idée de manipulation et pour permettre une approche plus diverse. Utiliser des maquettes interactives, c'est-à-dire des objets qui sont conçus pour transmettre une idée particulière, être manipulables et durables dans le temps. Et ça, c'est un des enjeux pour nous, en interne. Scientifiquement, on en a besoin.
Peut-être, on pourrait mentionner le répondeur Allô la Terre.
Oui, parce que depuis le début de l'émission, je fais celui qui ne fait rien, mais je suis au courant de deux, trois choses.
Et ben voilà. Donc effectivement, c'est une cabine dans laquelle les enfants peuvent rentrer, mais aussi les adultes par ailleurs. Et puis ils ont un petit clavier à disposition, là, avec une série de sons à écouter. Il y a un petit code à taper sur le clavier, qui va déclencher, en l'occurrence, une dizaine de sons, là, qu'on peut écouter séparément, des sons qui sont des créations.
Des sons qui ont été réalisés par les élèves de l'école Julie Daubier à Saint-Ségal l'année dernière.
Voilà, grâce à Radio Évasion.
Dans le cadre d'un projet génial qui inverse la position, les enfants apprennent la géologie aux adultes à partir de ce qu'ils ont compris, et ça c'est un projet incroyable qui représente quelque chose de très important dans la médiation et la diffusion de la science qui émane de Radio Évasion, avec les talents de l'équipe interne. Alors, qui a monté tout ça.
À l'époque, nous étions Radio Évasion.
À l'époque, bien sûr.
Oui. On parle d'un temps.
Mais bien sûr,
Il y a trois mois.
bien avant Transistor.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des ateliers ou des formations qui sont disponibles pour apprendre à utiliser les machines ?
Oui. Il y a déjà sur le site la liste des activités, des ateliers. Il y a des ateliers d'initiation. Voilà, déjà pour démarrer, on peut venir s'initier. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour suivre une formation un peu compliquée de 2 jours, on vient pour s'initier pendant 1h30 ou 2 heures à, par exemple, la conception de plans en 2 dimensions. C'est-à-dire que si l'on veut, par exemple, faire de la découpe vinyle pour sa banderole associative ou découper des petites pièces en découpe laser, il faut effectivement, la première étape, faire un plan numérique, un plan sur ordinateur, qui va pouvoir ensuite commander la machine. Donc là, on propose effectivement ce type de temps, ce type d'initiation, entre autres, donc notamment sur ce sujet-là. Et alors, ce qu'on peut mentionner quand même, c'est que ces ateliers sont financés par le FDVA, Fonds de financement de la vie associative.
Fonds de développement de la vie associative.
Exactement. Et donc, donc ils sont accessibles gratuitement du point de vue des participants. Donc c'est ça, c'est un sujet axé sur la fabrication, on va dire, mais on a des sujets aussi ouverts sur les sciences. Donc dans le Fab Lab, on a eu et on va continuer d'ailleurs à parler intelligence artificielle. Il y a eu un atelier d'initiation à la programmation sur ordinateur quantique il y a 15 jours de cela, animé par Pascal. Donc on est vraiment sur des sujets sciences et techniques, techniques de fabrication, et avec une volonté en tout cas de les ouvrir au plus grand nombre, c'est-à-dire de faire en sorte que puissent venir s'initier, se former et apprendre des gens qui n'ont pas forcément un bac plus 4 en ingénierie ou sciences ou que sais-je.
Tu m'as parlé de robotique ce matin lors de la visite du Fab Lab, c'est aussi un sujet.
Ah, c'est un sujet là qu'on a commencé à travailler. C'est un sujet qui plaît pas mal, ouais. Donc en l'occurrence là, on a fait 2 stages avec des enfants entre 10 et 14 ans, des stages de 2 jours. Et donc le principe étant effectivement pour chaque enfant, en étant accompagné, de réaliser son petit robot. Alors il s'appelle Otto. Otto le robot, il marche. Il peut même danser un petit peu. Il peut siffloter des mélodies connues, et puis surtout, il se programme. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Donc il y a à la fois de la fabrication à partir de pièces de bois prédécoupées, que les enfants vont assembler, coller avec minutie. Donc il y a cet aspect-là de fabrication. Donc on va dire qu'on est vraiment dans l'activité manuelle. Et à l'issue de la fabrication, sur le jour 2, il y a la partie programmation. Et donc le robot, effectivement, si on veut qu'il sifflote, qu'il danse, qu'il marche, qu'il aille à droite, à gauche, etc., il faut bien lui donner les instructions.
Et oui, il faut qu'il puisse utiliser ses capteurs.
Exactement.
Alors, oui.
Oui, c'était d'ailleurs étonnant et très intéressant de voir comment les enfants de cette tranche d'âge apprennent la programmation à l'école. Et on était vraiment très très épatés par leur manière de programmer le robot, de rentrer dans le sujet et de le faire fonctionner effectivement très 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 rapidement. Quoi.
Avec Scratch pour le nom, voilà. Qui est introduit dès le collège, selon les choix des enseignants.
Alors on va revenir peut-être au fonctionnement de ce Fab Lab. Comment ça se coordonne entre salariés et bénévoles ? Qui fait quoi en fait ?
On va dire que pour ce qui est de la vie du Fab Lab, du cœur de ce qui s'y passe, les bénévoles sont vraiment au centre. Alors moi, en tant que salarié, de mes rôles, c'est effectivement de la coordination, c'est de l'animation.
D'animer, ouais.
C'est d'animer, c'est de faire en sorte, d'essayer de faciliter, et d'essayer de faire en sorte que puisse s'exprimer l'envie des bénévoles de faire des ateliers d'initiation, de venir fabriquer les choses, etc. Donc c'est vraiment, en fait, sans les bénévoles, et on voit ça souvent hein, dans les Fab Labs, sans les bénévoles, ça serait difficile ou impossible.
Oui, parce que c'est des compétences qui sont apportées par les bénévoles aussi.
C'est des compétences. Donc je pense à Eric, par exemple, qui est très 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 au fait de la 3D. Je pense à Pascal, qui lui est très au fait de plein de questions scientifiques. C'est difficile d'avoir tout ça dans une seule et même personne.
Bah, c'est des personnes d'exception, là.
Et bah, je confirme, effectivement.
Combien de bénévoles vous avez
On a une demi-douzaine de bénévoles actifs qui viennent régulièrement. Mais c'est assez formidable, puisqu'on a aussi des bénévoles qui disent, bah, écoutez, bonjour, moi, mais je connais pas trop là, les Fab Labs, logiciels, c'est pas trop mon domaine. Et finalement, il y a tellement de choses à faire, depuis l'aménagement jusqu'au fait que c'est une chose que l'on apprend d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup appris en fabriquant. On passe beaucoup de temps sur la conception. C'est-à-dire que c'est pas forcément le temps principal en amont de la fabrication est très très conséquent. Et quelqu'un qui n'a pas de compétences spécifiques techniques peut complètement faire des apports sur l'ergonomie, le design de l'objet, et puis faire des pas de côté aussi à celui ou celle qui, technicienne, technicien, a un peu trop tendance à penser technique. Donc c'est aussi un appel à, et on le constate déjà dans le groupe de bénévoles, une manière de mettre un petit peu en avant que il n'y a pas, et on ne cherche pas, que des profils hyper techniques, loin de là.
Alors il y a des domaines spécifiques dans lesquels vous souhaitez peut-être vous démarquer, parce qu'on sait que les Fab Labs constituent un beau réseau, un beau maillage sur tout le territoire, mais peut-être qu'ici, au Fab Lab Silex et compagnie, il y a peut-être quelque chose que vous voulez développer, quoi, votre truc à vous, quoi.
Ben, peut-être outre l'aspect fabrication pour le musée que Pierre a évoqué, moi j'ai coutume de dire en fait qu'il se passe et il va se passer dans le Fab Lab ce qui sera initié aussi par les gens qui y sont, c'est-à-dire les usagers, les bénévoles, etc. Maintenant, effectivement, là on constate, il y a cet axe là un petit peu robotique, là on sent que ça accroche,
ça,
ouais, ça plaît bien là, cet axe robotique là, que un des bénévoles d'ailleurs a initié, a porté, a envie de poursuivre, c'est un des axes, avec un projet. Alors on va voir si on peut tenir le rythme et être jusque pour la prochaine saison, mais on a une idée un petit peu folle, ce qui est de faire parcourir un petit robot rover explorateur dans le jardin insolite.
Ah oui.
Ah oui, un rover comme dans l'espace.
Un rover comme sur Mars.
Exactement.
Exact, mais pour redécouvrir une planète habitable, la seule qu'on connaisse, c'est-à-dire la nôtre.
Et oui.
Pour être intéressant.
Et un peu plus fréquenté l'été, toutefois, cette planète.
Un peu plus fréquenté l'été. Et juste pour compléter, pour résumer, ce Fab Lab, il a l'avantage d'être, comme d'autres Fab Labs, un lieu de rencontre et de partage. Ça, c'est quand même l'idée fondamentale. Mais en plus, de combiner avec le musée, qui est lui aussi un lieu de rencontre et de partage, et je crois que l'association des deux vraiment ouvre beaucoup de portes et d'horizons sur la possibilité, sur les potentiels du futur.
Bah justement, on va en parler des potentiels, mais magnifique, quelle transition Pierre,
je t'en prie.
Justement, ça va nous amener sur le projet Youth Rural Lab, c'est bien comme ça qu'il faut dire ?
Exactement.
Ça c'est un projet qui est en réflexion, qui est en cours, ou c'est vraiment quelque chose qui va voir le jour ?
Et bah, en fait, ça a démarré.
C'est parti. C'est terminé en fait.
Pourquoi en parle-t-on alors ?
Très bien passé. Alors ça s'est magnifiquement passé.
Non, ça a démarré, voilà. Et c'est un projet européen en fait. Il y a trois partenaires. Voilà. Il y a un écomusée, La Ponte en Espagne, partenaire espagnol.
C'est un projet européen.
Et partenaire lituanien, c'est un centre culturel. Dans une petite ville, Varinos, en Lituanie. Et puis nous, voilà. Donc, trois partenaires, trois zones rurales, voilà. C'est un des axes du projet, c'est de faire sur des territoires ruraux. Et on a ça, d'ailleurs, en commun avec les deux autres partenaires. De travailler l'initiative, essayer de mener, de développer des projets sur les territoires. Avec un public jeune en l'occurrence.
Oui, c'est ça, parce que c'est un projet qui va concerner des jeunes de 18 à 30 ans, c'est bien ça ?
Exactement.
Ouais. Exactement, c'est financé dans le cadre du programme Erasmus+, qui a pour but notamment de mettre en contact des jeunes européens les uns avec les autres, et puis d'ouvrir des horizons qui ne sont pas nécessairement automatiquement disponibles quand on est en zone rurale. Et ça, c'est des enjeux importants qui sont au cœur de l'esprit de ce programme qui se concrétise, comme Pierre-Yves l'a dit, par un partenariat entre trois pays.
Pierre-Yves Cavella, parce qu'on Cavella. Va perdre les auditeurs sinon.
Pierre-Yves 2.
Alors, on peut peut-être... j'ai une question pratique à vous poser. Un jeune de Crozon, de la Presqu'île, de Châteaulin, de Plougastel, entend parler de ce projet et puis souhaiterait vous contacter. Ce serait pour y faire quoi? Un jeune de 18 à 30 ans.
Eh ben, en fait, donc il disait trois partenaires, trois territoires, trois thématiques. Voilà. En gros, c'est ça. C'est chacun la sienne. Nous, c'est autour des sciences. Autour des sciences, mais les sciences, ça peut être la médiation scientifique, sciences et société. En fait, les projets qui vont naître localement à l'initiative de jeunes de la Presqu'île, mais on va dire du Géoparc, on va élargir un petit peu le territoire.
Mais oui, forcément.
Leur proposition, là, c'est ça. C'est un appel qu'on va faire à partir de janvier. Hein, l'appel officiel entre tous les partenaires, c'est en janvier. Ça sera un appel à idées, à projets autour des sciences.
Ok. Voilà. Et toutes les sciences.
Et toutes les sciences, géosciences étant.
Forcément, si un projet géosciences.
Englobe toutes les autres, donc disons géosciences, quand même. Pour rigoler, mais très concrètement, les jeunes à qui on s'adresse ont la possibilité de proposer une idée sur un territoire qui sera réalisée, en tout cas prototypée pendant une semaine intensive de travail où des binômes, une équipe européenne sera formée pour venir concrétiser cette idée. À la Maison des Minéraux, comme dans les deux autres structures, on accueillera trois idées proposées par des jeunes d'ici, et donc ça c'est le premier appel, pour être menées, cogitées, travaillées intensément jusqu'à obtention d'un prototype éventuellement, dans le sens large, pendant une semaine en juillet ici.
D'accord. Donc là, les jeunes des jeunes du secteur seront donc amenés à travailler avec d'autres jeunes provenant de Lituanie et d'Espagne dans votre cœur.
Exactement. Exactement. Et là, c'est une appel à idées. Donc, ce sera précisé assez rapidement sur les différents cadres et sur les sciences dont on parle, pour que cette idée puisse être saisie par une équipe de 6, 2 Lituaniens, 2 Espagnols, 2 Français pendant une semaine ici à la Maison des Minéraux. Eh ben, on travaille et ce sera le cas dans les autres pays également.
D'accord. Et ça, c'est prévu pour quand?
Ah ben, le laboratoire qu'évoque Pierre, c'est en juillet. Donc, en l'occurrence, du 30 juin jusqu'au 5 juillet, sur le thème des sciences, donc. Et il y aura aussi un laboratoire en Lituanie, en mai, plutôt sur le thème de art et culture. Et un troisième laboratoire en Espagne, en septembre, début septembre. Donc, en fait, c'est vrai que ce sujet-là peut intéresser, comme on le disait, des gens qui s'intéressent aux sciences, mais va aussi concerner, et ça sera une belle occasion de partir en Lituanie et en Espagne, des gens qui s'intéressent à l'art, la culture, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ainsi qu'au patrimoine. Donc on va aussi relayer cette information-là. On va accueillir des gens pour faire des choses autour des sciences, et on va donner l'occasion à des jeunes de partir, Lituanie et Espagne, autour de l'art et musique et patrimoine.
À chaque fois pour une séance d'une semaine de travail, tout frais payé, pour réfléchir sur des sujets, dans l'idéal, qui ont un impact sur le territoire d'où elles émanent. Et en tout cas, c'est l'occasion d'une rencontre entre des jeunes de différents pays qui travailleront ensemble très concrètement, par tous les moyens.
Pour définir peut-être un peu plus les attentes, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être cogité pendant une semaine ici, en lien autour des sciences? Vous y avez-vous un petit peu réfléchi? Quelles attentes vous avez de ce côté-là?
Ben disons que on a déjà une longue liste, on va dire, d'idées. C'est vrai que, ouais. Voilà, Maison des Minéraux, il y a plein d'idées, il y a plein de besoins aussi, donc on a une liste comme ça d'objets qu'on verrait bien dans le musée, etc. Maintenant, le principe de ce projet-là, c'est d'essayer de partir des idées des jeunes, ou en tout cas de dire, bah écoutez, il y a un cadre, effectivement, on n'enverra personne sur Mars, a priori, enfin vous voyez, c'est pas... En termes de projet, d'intention et de moyens, c'est
une semaine, ça suffira pas.
Ça va être un peu short. Donc il y aura, mettons, on va dire, un cadre. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire naître des projets.
Et dans l'idéal, qui répondent à une problématique identifiée sur le territoire, par exemple, comment fait une jeune fille pour avoir envie de s'engager dans les sciences alors que en territoire rural, il y a, tout comme dans l'ensemble de la société, beaucoup de barrières qui sont dressées. Ça pourrait être un constat que fait un jeune et qui propose une idée dont je ne sais pas encore les contours concrets, mais qui disent je veux aborder ce problème sur le territoire de la Presqu'île, comment donner envie aux jeunes filles de s'engager dans science, peut-être en montrant des exemples, peut-être en réalisant des portraits lumineux qui soient affichés quelque part. Aucune idée, mais voilà, partir d'une idée et se dire que en cogitation collective avec d'autres jeunes européens qui ont des compétences complémentaires, puisque là aussi c'est important, les équipes seront constituées pour pouvoir répondre au mieux au fait de pouvoir réaliser cette idée, mais sans être trop ambitieux, en une semaine, au moins réaliser un prototype, c'est-à-dire essayer d'avancer au maximum en utilisant les compétences et le fait qu'à plusieurs, on est plus rapide parfois.
Il y a une chose qui est assez étonnante, puisqu'on nous dit dans ce cadre, ce projet-là, mais alors dans ce cas-là, il faut vraiment savoir bien parler anglais. Alors nous, on dit non.
Non, si vous maîtrisez le lituanien ou l'espagnol, ça va rouler.
Exactement.
Si c'est le cas de tous les participants, aucun problème.
Non, non, mais disons que le constat que l'on fait dans ce type de rencontre, c'est que la personnalité, vraiment l'envie de coopérer, de travailler, de s'ouvrir aux autres, est aussi nécessaire, on va dire, que la langue formellement. Donc peut-être là, c'est effectivement un appel à se dire, à dire aux gens qui seraient intéressés par ce projet-là, les deux, trois mots qu'on a dit déjà vous motivent un petit peu, prenez contact, et effectivement, on va voir après ces histoires de langue. Mais l'expérience montre que dans ce type de rencontre, les gens qui travaillent ensemble ne sont pas, et loin de là, parfaitement bilingues.
Sans être bilingue, c'est l'envie de collaborer qui est la plus importante, mais il y aura quand même un niveau d'anglais quand même minimum, puisque tous les échanges se dérouleront en anglais pendant la semaine, et c'est quelque chose à prendre en compte, bien sûr, mais sans nécessité d'être parfaitement fluent.
Dans tous les cas, vous lancez l'appel donc à des jeunes du secteur du Géoparc, donc d'un secteur qui s'étend sur la Presqu'île, Pays de Plougastel aussi, Châteaulin.
Tout à fait, ouais, parfait.
Et comment fait-on pour la suite, parce que ça, c'est en juillet.
C'est en juillet. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le lancement officiel entre les trois partenaires, c'est janvier. Mais c'est vrai qu'on commence déjà, nous, à évoquer un petit peu la chose là, ce matin. Sur le site Fab Lab, vous tapez Silex et compagnie, vous avez le contact, l'adresse de contact. C'est moi qui suis derrière, vous envoyez un petit mail, vous passez un petit coup de fil et on en échange.
Eh bien, c'est parfait. L'appel est lancé.
Et très concrètement, il y aura une procédure en janvier, un appel, et puis une application, alors c'est le mot anglais, un petit formulaire en ligne pour pouvoir participer, et prenez contact, ça va être super.
Eh bien merci à vous, et puis on suivra tout ça bien évidemment sur Transistor. Merci.
Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves.
L'EM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.